Session philosophique sur la personne par le Père Philippe, le 13 juillet 1989 à Saint-Jeudard.
Quelques petites questions, puis on continuera après de regarder le mystère de la personne du Christ. Combien existe-t-il de relations dans la très sainte Trinité? Il y a trois personnes. Alors, il y a la relation qui constitue le Père comme Père. La relation de paternité. Il y a la relation de filiation qui constitue le Fils comme Fils. Il y a la relation du Père et du Fils en tant qu'ils sont source de l'aspiration de l'Esprit-Saint. Ils sont un dans cette aspiration. Et il y a l'Esprit-Saint qui est relatif au Père et au Fils, source de cette aspiration. Puisque les relations sont fondées sur les processions et qu'il y a deux processions dans la très sainte Trinité, celle selon l'intelligence et celle selon l'amour. Ceci, saint Augustin, dans son De Trinitate, je me réfère toujours à saint Augustin parce que c'est le grand-père de toute la théologie occidentale. Il faut bien dire cela. Saint Thomas a précisé énormément certains points de saint Augustin. Mais c'est saint Augustin qui en a donné le fondement. La procession selon l'intelligence, c'est celle qui est à l'origine du Verbe. Et la procession selon l'amour, c'est celle qui est à l'origine de l'Esprit-Saint. Donc, deux processions et quatre relations. Je ne complique pas plus, hein, parce que si on poussait jusqu'au bout la très sainte Trinité, le mystère de la très sainte Trinité, on serait obligé d'ajouter d'autres précisions. Mais ça suffit pour nous. C'est la chose première, ça. Je crois que tout chrétien intelligent pour le mystère de Dieu doit comprendre cela. Ça fait partie du patrimoine chrétien. Voir réponse, si vous voulez, à un musulman. On sera en face d'un musulman, puisque vous savez bien, la seconde religion actuelle, c'est l'islam en France. Que ça augmente. Et que dans l'an 2000, selon les statistiques, on ne peut jamais être absolument sûr, hein, en l'an 2000, les musulmans seront plus nombreux que les catholiques dans le monde entier. C'est très impressionnant, cette montée d'islam. Elle impressionne énormément en Afrique, hein, c'est sûr, mais en France, on la voit. Or, dès que vous êtes en face d'un musulman qui réfléchit, qui adore, qui a un sens de Dieu, et qui estime, il y a des musulmans qui estiment énormément les chrétiens. Il y en a qui ne peuvent pas les supporter, hein, parce qu'il y a différents aspects. Il y a du fanatisme, comme partout. Alors à ce moment-là, tuer un chrétien, c'est une bonne œuvre, n'est-ce pas? Mais un musulman qui estime les chrétiens et qui voit qu'ils prient, c'était la réflexion que j'avais entendue en Afrique quand Salem a fondé à Kermoussa une petite abbaye. tout de suite dit, ah, voilà des blancs qui adorent et qui prient quand la cloche sonne. C'est joli, ça. Mais, c'est-à-dire que ce n'est pas des fonctionnaires, quoi. Pour eux, les blancs, c'est des fonctionnaires. Ils ne voyaient pas qu'il y a des blancs qui prient. Je crois qu'en face de l'islam, c'est l'adoration, la contemplation, la prière liturgique qui est nécessaire. Quand ils voient des missionnaires qui, au fond, prient, mais comme ils le peuvent, hein, pas en communauté, ça porte beaucoup moins. Peut-on expliquer la distinction entre les parties inférieures, oui, et la partie supérieure de l'âme du Christ? Je comprends, j'étais vite là-dessus. C'est très difficile, ça aussi c'est une distinction de Saint-Augustin. Comprenez, voyez toujours d'abord le problème théologique, c'est-à-dire le mystère. Si le théologien a la certitude, comme théologien, que la grâce du Christ, dans l'âme du Christ, est une plénitude de grâce, tout de suite, à cause du mystère de l'union hypostatique. Donc, conclusion directe de la foi. Et je ne vois pas quelle autre conclusion on pourrait en tirer. Étant donné que la nature humaine dans le Christ subsiste dans le Verbe de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre, hein, psychologiquement. Vous pouvez simplement voir qu'il n'y a pas de contradiction et que c'est merveilleux si Dieu a fait ça. Parce que c'est introduire sa créature dans la plus grande intimité de son mystère. C'est merveilleux. C'est la plus grande communication d'amour que Dieu pouvait faire. Et il l'a faite. Pour nous. Il n'a pas fait ça pour les anges. Il a fait ça pour les petits benjamins. Oui. C'est là où on comprend tout l'amour de Dieu pour les petits derniers. Parce qu'il a fait ça pour les benjamins. Donc, la nature humaine dans le Christ est dans cette situation unique qu'elle subsiste dans le Verbe de Dieu. Toutes ces opérations seront portées par le Verbe de Dieu. Puisque c'est la personne qui porte les opérations. C'est la personne qui est le sujet des opérations. Et donc, la nature humaine à ce moment-là a une situation unique par rapport à la source de la grâce. Elle ne peut pas être plus proche. Donc elle reçoit, puisque Dieu fait ça par amour. Et que quand Dieu fait quelque chose par amour, il y va à la manière d'un Dieu. C'est-à-dire avec une magnanimité, une gratuité absolue. Donc il donne tout ce qu'il peut donner. La plénitude de grâce. S'il y a plénitude de grâce, nécessairement la grâce aboutit à son terme. Or, la grâce, c'est dit dans l'Écriture, semence de gloire, sémen glorié. C'est dans saint Paul. La grâce, notre grâce, la grâce sanctifiante que nous avons, qui est la même que celle de l'âme du Christ, que l'âme humaine du Christ. Notre grâce est faite pour la gloire. Certains théologiens aiment de dire que tant qu'on est sur la terre, on est en captivité. On est sur la terre, on est en attente. La grâce ne sera parfaitement elle-même que dans la vision béatifique. Mais on a beaucoup de peine à comprendre ça parce qu'on croit que ce qu'on vit ici sur la terre, c'est après tout, c'est pas si mal. Hein. malgré toutes les difficultés, les luttes, tout ça, après tout, c'est pas si mal. Eh bien, le Fils de Dieu qui est en nous, l'enfant de Dieu qui est en nous, la grâce de Dieu qui est en nous, elle est en captivité. Elle ne peut pas s'épanouir pleinement. Elle ne peut pas s'épanouir avec toute la liberté qu'elle voudrait. Oui, alors, on est étranger de la culture humaine en tant que chrétien. Sa mère actuelle l'a dit à certaines infirmières italiennes. N'oubliez pas que vous allez vous trouver peut-être dans des conditions telles que les premiers soldats romains se trouvaient quand ils devenaient chrétiens. Obligés de quitter votre poste. Parce qu'on vous obligera à faire certaines choses qui seront contraires à votre conscience de chrétienne. Donc, on est des étrangers par rapport à la culture Mitterrand. Il faut le dire, quoi. C'est pas en comme naturalité. On est des étrangers. On est des étrangers par rapport à ce que le Saint-Père appelle, indépendamment du point de vue politique, vous voyez. Je prends uniquement l'aspect famille, l'aspect éducation, ce que ça représente. Vous voyez les livres qu'on met aujourd'hui en cinquième pour la biologie. C'est contraire à l'éducation chrétienne, on va dire le contraire. Et des quantités de professeurs de philosophie sont ou dans la perspective de Sartre, ou dans la perspective de Freud, ou dans la perspective de Marx. C'est contraire à notre vie chrétienne. On respire constamment un air qui n'est plus chrétien, qui n'est plus en connaturalité avec notre vie chrétienne. Donc on est des étrangers à cette culture actuelle. Ça, on le sent bien. Le positivisme crée une culture qui fait une désacralisation, une sécularisation, qui n'est plus. Donc on est des étrangers, voyez bien, au point de vue humain, culture humaine, culture américaine comme européenne. Je sais, c'était un de nos frères qui est là-bas au Texas qui me disait qu'il y a des éclosions actuelles extraordinaires depuis 2 ans dans le Texas. Du point de vue de sectes ouvertement démoniaque. Dans des collèges, il y a des jeunes de 17 ans qui se disent prêtres de Satan. Alors il y a eu des réclamations auprès du gouvernement. On a simplement répondu, mais Satan, s'il existe, a le droit à avoir sa religion. Et c'est très significatif, ces choses-là. Parce que ça montre combien le chrétien, de plus en plus, dans la mesure où cette sécularisation augmente, est comme un étranger. Oui, c'est pour ça que le port de l'habit, constamment, fait que... Il y en a qui ricanent en disant, mais quoi, c'est témoin d'un âge révolu. Témoin d'un âge révolu. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de le porter. Pour montrer que, eh oui, ça existe. On est chrétien, c'est pas le Moyen-Âge qui est chrétien, c'est l'homme qui est chrétien. Puisque pour adorer, il faut jeter sa couronne. Donc, il faut jeter la culture du Moyen-Âge, la culture, n'importe quelle culture. C'est l'homme qui est chrétien. Jésus est mort pour l'homme, pas pour le Moyen-Âge. Et il serait mort par-dessus le marché, mais avant tout pour l'homme. Il faut bien comprendre qu'on est étranger par rapport à cette culture du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, mais aussi du début. Au début du XXe siècle, il y a eu les lois Combes en France. Et ce petit séminaire construit pour le diocèse de Lyon a été pris. C'est un bien d'église. Et il a été sécularisé. Et il appartient encore à l'État. Ça qui est bon. Il appartient à l'État. On a pris le nid, hein, de l'État. Puisque l'État, ça faisait mauvais effet, vous comprenez ? Point de vue socialiste, c'est mauvais effet. Un grand établissement comme ça, personne dedans. Et qui voulez-vous mettre, si ce n'est des moines ? Il fallait voir l'état dans lequel il était. Il fallait voir ça. Vous avez vu, toutes les portes sont faites encore pour la surveillance. Puisque c'était un lieu de rééducation. Et nous aussi, on continue. Un lieu de rééducation. C'est une rééducation divine. Et là, c'est une rééducation au point de vue des gosses qui avaient fait des bêtises. Alors, c'est rééducation. C'est très agréable d'habiter dans un lieu qui ne nous appartient pas. Ça, c'est le pauvre. Il habite dans un lieu qui n'appartient pas, qui appartient à l'État. On sait que l'État n'a aucun avantage de reprendre cette maison. On ne va pas la remettre dans un état tel que l'État n'aura une séduction. Mais si on faisait des salons du Louis XIV, alors évidemment, on pourrait peut-être faire ici un château de Versailles. Ah oui, une dimension particulière de Rouen. On est étranger à cette civilisation et on est en attente de la vision béatifique. Et il y a une double captivité, c'est très curieux. L'une du côté de la foi par rapport à la vision béatifique, l'autre par rapport à la culture humaine. C'est ça le chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Notre vie de foi est comme ça. Bien, dans le Christ, la grâce n'est plus semence de gloire, la grâce est dans un état de perfection telle qu'elle atteint sa fin. Et la fin de la grâce, c'est la gloire. Et donc, l'âme humaine du Christ, dans son intelligence et dans sa volonté, vit du face à face. La vision béatifique. On voit Dieu tel qu'il est. Ceci ne doit pas empêcher que Jésus soit pèlerin comme nous. La condition de pèlerin. Si la vision béatifique dans le Christ avait tout pris, son corps aurait été glorifié. Normalement, le corps du Christ aurait dû être glorifié, puisque c'est le corps d'un Dieu. Et selon une volonté de Dieu, le corps du Christ est capable de souffrir. Normalement, la vision béatifique, le face-à-face, aurait dû s'emparer de toute la vie du Christ, selon une volonté expresse de Dieu. Jésus vit la condition de pèlerin comme nous, pour être victime d'amour à la croix, l'Holocauste, pour offrir sa vie au Père pour le glorifier et nous sauver. Et c'est pour expliquer cet état de pèlerin capable d'être offert comme victime et de s'offrir lui-même comme victime pour glorifier le Père et nous sauver que le théologien précise, le théologien saint Augustin, parce que je crois que c'est lui le premier qui a fait ça. précise que les sommets de l'intelligence et de la volonté du Christ sont irradiés de la vision béatifique, sont directement dans la lumière de la vision béatifique. Mais la partie inférieure, je le dis en latin, la partie du Christ en tant que pèlerin, c'est sa prudence. Autrement dit, dans l'âme du Christ, dans l'âme spirituelle, dans l'âme divinisée par la plénitude de grâce, il y a la partie supérieure du Christ, la sagesse, qui vit d'une contemplation plénière, lumineuse. Il vit du Verbe de Dieu. Il le voit. Et la partie prudentielle du Christ qui commande la présence du Christ. Il y a une présence dans l'âme du Christ. Une prudence infuse. Une prudence qui est entièrement sous la domination, sous le souffle de la grâce, de la charité. La charité infuse l'exercice de cette prudence parfaite, pour diriger le pèlerin. Jésus comme pèlerin, Jésus comme victime, Jésus comme prêtre, grand prêtre. Oui, alors, son sacerdoce est contemplatif, parce qu'il est un sacerdoce de sagesse, et son sacerdoce est un sacerdoce apostolique. Il est l'apôtre par excellence. Il s'offre pour ses brebis. C'est ça l'apôtre. Il s'offre pour ses brebis. Donc il prend la place des brebis galeuses, des brebis qui sont infectées du péché. Il porte tous ses péchés sur lui. Jésus a pris la place du pécheur. Il a porté sur lui l'iniquité du monde, comme agneau de Dieu, comme victime d'amour. Et tout ça, c'est dans son âme qu'il l'a pris. Il s'est présenté au Père comme le seul responsable de toute l'humanité. Donc Jésus a payé, je prends le langage métaphorique, hein, Jésus a payé la dette de tous nos péchés, par amour pour nous. Il s'est présenté en face du Père comme le seul responsable de toute l'humanité. Il peut le faire parce qu'il est fils de Dieu. C'est cela le mystère du sacerdoce du Christ. Il se met entre le Père, entre la justice du Père et nous. Et seul, alors là c'est toute la grande recherche de la théologie, seul Jésus, comme fils de Dieu et comme homme, pouvait faire cela. C'est-à-dire se présenter au Père comme responsable de toute l'humanité. Seul Jésus peut subir la justice du Père. Nous serons incapables. C'est évident. Je ne peux pas réparer mes péchés. Ni le péché originel, ni le péché des autres. Je peux porter avec Jésus. Depuis que Jésus est victime d'amour, je peux m'unir à lui et porter pour tous les autres. Ce qu'a fait Marie dans le mystère de la compassion. pu connaître ce qui est dit dans le livre d'Osée, Sponsabo in fide, in misericordia, in justitia. C'est le prophète Osée qui annonce ce qu'est la nouvelle alliance de l'épouse à l'égard de l'époux. Donc de Marie à l'égard de Jésus. Je t'épouserai in fide dans la foi, dans la miséricorde et dans la justice. Tout le mystère de la compassion, c'est Marie qui veut vivre le mystère de la croix dans sa foi, dans son amour, dans sa miséricorde et dans la justice. D'aller le plus loin possible. Alors, vous comprenez, ce qu'on appelle la partie inférieure, c'est tout simplement en raison même de la décision du Père dans sa sagesse divine pour le mystère de l'incarnation, c'est de faire que dans l'âme du Christ, il y a cette partie complètement illuminée. Saint Augustin dit la partie supérieure, la sagesse du Christ. Et la partie inférieure, dans son intelligence et dans sa volonté, le mystère de la prudence du Christ, le mystère du sacerdoce du Christ. Il porte l'iniquité du monde, de toutes ses brebis, et se présente face au Père. Et ceci ne peut se comprendre en fonction de la volonté de Dieu sur lui, la volonté du Père. Le mystère de l'incarnation aurait pu se réaliser autrement. Mais de fait, vu ce qui nous est dit dans les évangiles, dans les épîtres, l'épître aux Hébreux, les épîtres pauliniennes, on peut alors réfléchir sur ce mystère du Christ rédempteur et comprendre comment Dieu a voulu qu'il soit le Fils bien-aimé qui porte l'iniquité du monde dans sa nature humaine. Dernière question. Les deux volontés du Christ sont-elles toujours unies ? Y a-t-il une tension entre elles lors de l'agonie? Tension psychologique. Je vois la petite oreille arriver. Les deux volontés du Christ. Ça, les théologiens ont beaucoup étudié ce problème-là, ce mystère. Et là, on touche le nœud. Ça, c'est sûr. Alors, reprenons. Parce que c'est important. C'est très important de réfléchir quand même sur le mystère de Jésus. C'est très bien de lire l'Évangile et de recevoir le mystère de Jésus tel qu'il nous est monté d'une manière un peu descriptive. Et aujourd'hui, tout le monde est théologien. Donc, il faut l'être. Et autant que possible, une bonne théologie. Parce que c'est vrai, ça passe à travers tout. Vous voyez des fausses théologies, mais à pleurer. Et vous voyez des athées qui, au fond, connaissent la théologie et se mettent à ricaner. Goliath, en face du peuple d'Israël. Ils sont sûrs d'être victorieux. Le démon, aujourd'hui, se manifeste comme à la croix, en étant sûr d'être victorieux. Au Moyen-Âge, il se cachait un peu. Parce qu'aujourd'hui, il se manifeste. Il se manifestait à travers des jeunes de 17 ans, et dit « Je suis prêtre de Satan. » C'est affolant. Il y a quelques années, un congrès dit luciférien à Paris. 5000 personnes. Et ça a été publié. Un congrès luciférien. Il faut bien voir combien le démon actuellement est à l'œuvre. Et il se croit absolument victorieux. Comme à la croix. Il ricane. C'est en retard. Oui. Chaque fois que l'Église veut dire quelque chose, immédiatement, on voit très bien. Et ça pénètre, vous voyez, l'intelligence des théologiens qui ont peur d'être en retard. C'est, pour un théologien et pour un philosophe, c'est la pire des injures. Vous êtes en retard. Pourquoi ? En retard vis-à-vis de quoi ? Si on cherche la vérité, on n'est jamais en retard. On est avec l'éternité. Mais si vous cherchez la mode, vous pouvez être en retard d'une saison. Ça, c'est sûr. Si vous cherchez à vous adapter, vous serez toujours en retard d'une saison. Toujours. C'est pour ça que, vous voyez, quand dans la formation théologique, on ne cherche plus que l'adaptation, quand on sera formé, le monde aura déjà dépassé ça. Et donc, on sera en retard d'une génération. Vous n'allez pas faire la théologie de la génération Mitterrand. Il y aura une autre génération. Ce n'est pas éternel. Alors à ce moment-là, les théologiens de la génération Mitterrand ne sauront pas quoi dire par rapport aux autres générations. Tandis que si vous avez une théologie qui cherche la vérité, quand vous serez dans le bain, si vous êtes suffisamment vivant, c'est une question de vie. Parce que le vivant s'adapte et crée autour de lui un grand milieu. Ça, c'est le chêne. Dans une forêt, c'est très net. Mais si vous êtes un petit vivant, il faut mettre une cloche dessus. Vous savez bien. Parce qu'on a peur des premiers froids. C'est toute la différence. Et alors, de regarder que l'adaptation, pour moi, c'est un phénomène de fragilité. Pour qu'on comprenne la fragilité dans laquelle on est, c'est très vrai. Mais la vie divine, elle n'est pas fragile en nous. Elle est fragile dans la mesure où on la conçoit relative à notre fragilité humaine. Mais dans la mesure où, voyant notre fragilité humaine, on voit que notre vie divine nous relie au Christ et que le Christ est victorieux, on est victorieux. Intérieurement, on est victorieux. Extérieurement, c'est possible qu'on ait la tête coupée. Ça n'a pas d'importance. On sait que la victoire est intérieure. Mais c'est vrai, si on s'était adapté plus, peut-être qu'on aurait eu la tête qui serait plus souple, n'est-ce pas ? Et alors, le couperet se passait, on a fait partir un jeu peut-être plus souple. Tandis qu'on se laisse la tête couper, c'est parce qu'on pense à la vérité, et on ne pense plus à l'adaptation. C'est très important de réfléchir là-dessus. Je vous le dis sous ce mode-là, mais c'est très important de comprendre que Jésus est victorieux parce qu'il y a la plénitude de grâce. Et il est victorieux jusque dans la croix. À la croix, où extérieurement, c'est la défaite, c'est la victoire de Judas, du Sanhédrin, des grands prêtres. Extérieurement. Intérieurement, c'est la victoire de l'amour. Ça, c'est le modèle. C'est la grande lutte finale. Et l'Église connaîtra, au terme de son pèlerinage, quelque chose d'analogue à la croix. Puisque l'épouse ne peut pas terminer sa vie autrement que l'époux. Terminer son pèlerinage. Et donc, extérieurement, le démon créera la victoire. Et intérieurement, ce sera la grande victoire. Il faut souvent penser à ça. Et l'Apocalypse nous montre cela. De façon assez nette. Il ne faut pas croire du tout que l'Église va terminer dans un grand triomphe généralisé. Non. Elle est dans la lutte jusqu'au bout. Et la lutte devient de plus en plus intérieure. Alors, pensons au mystère de l'agonie. Il est très vrai que dans l'âme du Christ, il y a une volonté et une intelligence. L'âme de Jésus étant semblable à la nôtre, l'âme du Christ se développe vie à travers la volonté et l'intelligence. La volonté, capacité d'aimer, n'oublie jamais. Cette volonté est transformée par la charité. Donc, capacité d'aimer divinement le Père en Fils bien-aimé. Et puis, il y a l'intelligence. Le Christ exerce son intelligence, une intelligence, elle aussi, entièrement sous la mouvance de l'amour et transformé par les dons du Saint-Esprit et transformé par la science infuse. Il y a dans le Christ une science infuse pour que Jésus soit roi de tous les hommes. Jésus le dit à Pilate, il est roi. Roi de tous les hommes. Le royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, la royauté du Christ ne sera parfaitement elle-même que dans le ciel. Ici, sur la terre, elle est en but constamment à des défaites apparentes. Exactement comme dans le chemin de croix, il y a trois chutes successives. Défaite apparente. Les trois soufflets du démon projettent Jésus par terre. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, le disciple n'est pas plus grand que le maître. L'Église connaît les mêmes choses. Les chrétiens connaissent les mêmes choses. Les soufflets du démon. Alors, comprenons bien. Cette volonté du Christ, c'est là où les théologiens essaient d'expliquer la parole de l'agonie. Non pas ma volonté, mais la tienne. Père, que ce calice s'éloigne. Donc Jésus exprime une prière. Tu vois, exprime un désir dans une prière. Quel est ce désir? Que le calice s'éloigne. Jésus ne dit pas que la mort s'écarte. Prend un langage symbolique, le calice. Qu'est-ce que c'est que le calice, symboliquement? Ça exprime la volonté du Père sur lui et la manière dont le Père veut qu'il termine sa vie apostolique. De fait, comment Jésus a-t-il terminé sa vie apostolique? Il est terminé sur la croix avec Marie au pied de la croix, avec Jean, avec les saintes femmes. Un tout petit groupe, tout petit. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes, il faut le reconnaître. Il y a la croix, puisqu'il y a les trois Maries. Et les hommes, il n'y en a pas. Saint Jean et Saint. Que la femme a une fidélité plus grande. Ça, c'est là le grand mystère. Et c'est un fait. Et on devrait y réfléchir un peu plus. Parce que c'est dit dans l'Écriture expressément. Alors, comprenons. Jésus sait réconnu et l'accepté de porter toute l'iniquité du monde. À l'agonie, il le sait. Or, cette prière est dans l'agonie. Jésus a accepté l'agonie. Donc, il a accepté pleinement d'être le bouc émissaire qui porte tous les péchés de son peuple et de l'humanité. À l'agonie, il est seul. Puisque les trois qu'il avait choisis sont très fatigués et dorment. Il est seul. Il y a l'ange qui vient le consoler. Alors, je me demande si ce désir du Christ n'est pas le désir naturel de Jésus, roi de l'humanité, sauveur de l'humanité, le cœur royal du Christ est magnanime, c'est-à-dire qu'on accepte de communiquer la joie, mais on ne veut pas être source de souffrance pour ceux qu'on aime. C'est ça le propre d'un cœur royal, d'un cœur magnanime. Jésus sait que la coupe, c'est lui sur la croix, étant source de souffrance pour Marie, pour Jean, pour les saintes femmes. Alors, est-ce que Jésus, au plus intime de son cœur, dans le désir royal de son cœur, est-ce qu'il ne demande pas au Père d'être seul à souffrir? Il sait qu'il peut racheter seul toute l'humanité, puisqu'il est seul vraiment satisfaire pleinement à l'égard de tous les péchés du monde. Alors, puisqu'il peut le faire seul, est-ce que ce n'est pas une exigence propre de son cœur royal de supplier le Père de faire que Marie, que Jean, que les saintes femmes, et à travers eux, à travers Marie, les saintes femmes et Jean, toute l'Église, toute l'humanité, que le mystère de la croix soit porté par lui seul. C'est possible. Est-ce que ça ne convient pas à son cœur royal? Voyez, c'est inscrit dans, j'allais dire, le désir le plus foncier et le plus grand de son cœur de roi de l'humanité. Et il dit tout de suite, présent ce désir, non pas moi, mais ta volonté. Donc, il nous montre bien à ce moment-là qu'il ne s'arrête pas à un désir, si noble qu'il soit, et il est au-delà de toute psychologie, ça, puisque c'est, j'allais dire, la grandeur du cœur de l'homme qui accepte de porter seul le sacrifice, la souffrance, et de n'être pas cause de souffrance pour les autres. Oui, je crois que nous sentons tout ça, ou si nous ne l'avons pas encore senti, nous le sentirons dans notre vie. s'en diront autant. Il est normal de partager la joie, autant il est contraire à ce qu'il y a de plus noble en nous, de faire souffrir ce qu'on aime. Et combien c'est dur. Et quelquefois on est obligé. Quand on entre en religion, quand on entre en vie religieuse, que les parents ne sont pas consentants pour telle ou telle raison, on sait qu'on les fait souffrir. Et à ce moment-là, on demande à Dieu de porter toute la souffrance pour éviter qu'ils souffrent. C'est, je dirais, l'attitude normale d'un cœur bien-né. Alors, si nous nous ressentons, Jésus l'a vécu encore bien plus fortement. Mais en même temps, oui, il ne s'y arrête pas. Et que tout de suite, c'est offert. C'est d'autant plus beau. Ça fait partie de l'offrande de la victime royale. Jésus a parfaitement conscience qu'il peut seul accomplir parfaitement ce que le Père lui demande, le rachat de l'humanité, sauver les hommes, sauver les pécheurs. Mais il sait que le Père a une volonté autre. La volonté du Père, c'est que Marie soit associé au sacrifice, que Jean soit associé au sacrifice, que les saintes femmes le soient. Pourquoi le Père veut-il ça? C'est pour que le mystère de la croix aille jusqu'au bout de sa source d'amour, comme source d'amour, pour que la fécondité de la croix soit plénière. Voyez, si Marie n'avait pas compati, si Marie avait été exempte, Jean aussi, et nous tous, Marie, dans sa grâce, serait uniquement la petite enfant bien-aimée qui aurait tout reçu gratuitement. Comme un enfant. Et le Père veut plus, il veut qu'elle soit l'amie. Comme dit saint Augustin, qu'elle soit socia, associée, qu'elle coopère. On peut dire qu'elle soit épouse. L'épouse n'est pas l'enfant. Et l'épouse doit faire la même œuvre que l'époux. Comment elle n'est pas vraiment épouse. Il faut qu'elle soit pleinement associée et qu'elle coopère. Pour que Marie soit parfaitement épouse, il faut qu'elle coopère à l'œuvre propre du Christ, à l'œuvre proprement sacerdotale du Christ, pour qu'elle soit l'épouse du cœur sacerdotal de Jésus. Et donc qu'elle accepte le mystère de la compassion. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus proclame qu'elle est mère de Jean. Parce que si elle coopère à l'œuvre de la croix, Jésus est le Père de la grâce et Marie est la mère de la grâce. Parce qu'elle coopère à sa manière pour être celle qui vit le mystère de la croix de la manière la plus féconde qui soit, la plus parfaite qui soit. Et ce qui est vrai de Marie sera vrai de Jean et sera vrai de tous ceux qui sont de la descendance de la femme. Tous les chrétiens qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie chrétienne. Ils ne sont pas seulement rachetés, Ils ne reçoivent pas seulement la grâce de Dieu, mais ils veulent coopérer à l'œuvre du Christ. Ils veulent coopérer à l'œuvre de Marie. Ils veulent entrer dans l'alliance de l'époux et de l'épouse. Il y a là un très grand secret. Mais ceci nous permet de pénétrer plus avant, vous voyez, dans ce qu'il y a de tout à fait propre au sacerdoce du Christ. Sacerdoce de fils bien-aimé qui obéit à la manière d'un fils bien-aimé. Il y a deux manières d'obéir. Vous allez tout de suite comprendre. À la manière d'un serviteur et à la manière d'un fils. À la manière d'un serviteur, on accomplit la tâche qui est demandée. Jésus demande que la coupe soit écartée, mais Jésus jamais ne demande que l'œuvre qui lui est demandée, il ne la fasse pas. En tant que serviteur, il va jusqu'au bout. Au serviteur, on demande d'accomplir une tâche. On ne demande pas à un serviteur de l'accomplir de telle ou telle manière. Oui, on peut lui dire de ne pas l'accomplir de telle façon, mais on le laisse l'accomplir à sa manière. À un enfant, à un fils bien-aimé, on demande d'accomplir cette tâche et de telle manière. C'est tout à fait autre chose. Et donc l'obéissance va beaucoup plus loin. L'obéissance du serviteur, c'est simplement l'accomplissement de la tâche. L'obéissance de l'enfant, c'est l'accomplir de telle manière. Jésus a obéi en fils bien-aimé. Son sacerdoce, c'est le sacerdoce du fils, pour nous faire comprendre que non seulement il accomplit la tâche, il n'a jamais mis en doute ça. Un serviteur ne discute pas du reste. Hein. Un enfant peut discuter. Un fils peut. Pas un serviteur. Un serviteur va jusqu'au bout. Tu demandes ça, très bien. Tu dis ça, tu dois le faire. Et alors, ça nous fait comprendre combien l'obéissance du Christ à son Père, la prière de l'agonie, c'est vraiment une obéissance filiale. Il pouvait distinguer, pas séparer. Il pouvait distinguer momentanément dans sa prière, l'obéissance du serviteur qui accomplit pleinement la tâche demandée. Et demande que ce soit accompli d'une autre manière que le Père le voulait. Et puis l'obéissance du Fils qui accepte pleinement la manière dont le Père veut qu'il obéisse. Allez jusqu'au bout de l'obéissance. Et ça nous fait comprendre combien la personne du Christ, qui est le Fils bien-aimé, pénètre toutes ses activités humaines. Elles sont toujours des activités qui relèvent du Fils bien-aimé, incarné. Une seule personne. Porte la responsabilité comme fils bien-aimé de toutes ses activités, de toutes ses obéissances. Alors ça nous fait comprendre mieux, si vous voulez, ce que j'ai essayé hier de vous expliquer, c'est que on ne peut pas découvrir dans l'âme du Christ, dans la vie humaine du Christ, une psychologie propre. On ne peut pas découvrir un moi psychologique. Parce que la personne du Verbe, la personne du Fils bien-aimé, a pris possession divinement en tant que personne de toutes ces opérations. Il en est responsable en face du Père. Et pleinement responsable. Donc il n'y a pas une dualité au niveau de la personne. On ne peut pas. Il n'y a pas d'attitude réflexive. Il y a une obéissance comme la flèche de Dieu qui est dans le carquois du Père, pour employer l'expression merveilleuse des psaumes. Il est vraiment la flèche choisie dans le carquois du Père pour aller directement. Il n'y a aucune hésitation, alors que s'il y a une attitude réflexive, psychologique, il y a des hésitations. Quand on hésite à obéir, c'est à cause de quoi? C'est notre psychologie de pécheur. Encore une fois, on va m'avoir. Je suis fatigué. C'est notre psychologie de pécheur, ça. Quand les apôtres ont dormi à l'agonie, c'est notre psychologie de pécheur. Alors un dernier mot. L'ange consolateur, selon certains pères de l'Église, c'est Gabriel. L'ange de Marie. C'est Marie qui vit le mystère de l'agonie dans la solitude et qui envoie son ange auprès de Jésus pour montrer combien elle est une avec lui et combien elle aussi accepte pleinement la volonté du Père. Elle ne peut pas le savoir d'avance. Quelle est cette volonté du Père? Mais elle est entièrement remise à cette volonté du Père. Et c'est pour ça qu'elle sera présente à la croix. Dans l'agonie, elle ne peut pas être présente. Jésus est seul avec les apôtres. Une femme n'aurait pas pu rester là la nuit. Elle meurt du temps. Elle n'est pas là. Mais elle vit le mystère de l'agonie intérieurement, dans une solitude totale. Tandis qu'à la croix, elle peut être présente. Et il faut qu'elle le soit. Parce que l'agonie, c'est un mystère de solitude, alors que la crucifixion, c'est un mystère communautaire, à la face de tous. Il faut qu'elle soit présente. Comme elle est présente pour le sépulcre. Il y a exposition du Saint-Sacrement ce soir pour ceux qui le veulent, ceux qui sont fatigués. Ils ne viennent pas, mais ceux qui veulent peuvent venir et on chantera le Salve Regina après l'exposition du Saint-Sacrement. Dans une heure.